À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Jean Charmois, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Nous poursuivons notre série d'émissions sur les pères syriens, les pères de l'église syriaque. Aujourd'hui, vous voulez évoquer Philoxène de Mabourg.
Oui, alors Philoxène de Mabourg, son nom veut dire, Philoxène, ça veut dire l'ami des étrangers. Bon, il est né vers 450 dans une ville qui est proche de Kirkouk, en Irak aujourd'hui, dans le territoire perse. Et il vient étudier à l'école d'Edès. Nous avons parlé dans une autre émission des écoles de l'école d'Edès et de Nisib. Et il y vient quand l'école abandonne l'enseignement de Théodore de Mopsueste pour se rallier à l'enseignement de Cyril d'Alexandrie. On a expliqué dans une émission ces alternances entre les théologies d'Antioche, les écoles d'Antioche et les écoles d'Alexandrie, et qu'ils ont été rivales pendant toutes ces périodes-là. Alors, Philoxène, lui, va suivre la doctrine de Cyril d'Alexandrie et il va être un adversaire à la fois du concile de Chalcédoine et aussi de l'enseignement de Théodore de Mopsueste. Il sera intronisé en 487 comme évêque de Hierapolis, qui est Mabug en syriaque, une ville de Turquie qui est bien connue par le site touristique de Pamukkale, pour ceux qui ont fait un séjour en Turquie. Il s'oppose très fortement au patriarche d'Antioche, Flavien II, qui lui acceptait le symbole de Chalcédoine. Il va jusqu'à Constantinople auprès de l'empereur pour demander la condamnation explicite de la doctrine chalcédonienne des deux natures dans le Christ. Mais nous sommes en fin du 5e siècle, et là le concile de Chalcédoine a eu lieu, les empereurs en général défendent la doctrine de Chalcédoine, et finalement... Alors oui, j'oublie de dire, il y a plusieurs synodes où Philoxène arrive avec le consentement de l'empereur, à déposer le patriarche d'Antioche, qui était chalcédonien, comme on dit, qui défendait Chalcédoine, et qui était remplacé par un grand nom de la théologie de l'église syriaque occidentale, qui s'appelle Sévère d'Antioche, dont on parlera dans une autre émission. Et le nouvel empereur, Justin Ier, qui arrive en 518, lui, est un orthodoxe chalcédonien. Donc il fait annuler toutes les ordinations du temps de son prédécesseur. Philoxène, comme Sévère, sont chassés de leur siège. Philoxène est exilé à Gangre, au nord-est d'Ankara, où il meurt le 10 décembre 523. Alors c'est un saint très important pour l'église syriaque orthodoxe occidentale. Il est commémoré plusieurs fois au cours de l'année.
Alors, toute l'œuvre de Philoxène a été écrite en syriaque. Une bonne partie en est perdue, mais ce qui reste est assez important, Jean.
Alors, il reste 13 homélies sur la vie spirituelle, avec des traductions en grec, en arménien et en arabe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la propriété, le droit d'auteur n'existait pas. Et bien souvent, lorsqu'un texte était intéressant, on le traduisait et on le faisait passer sous le nom d'un autre saint ou d'un autre auteur, et ce qui permettait à des textes d'être véhiculés à travers l'ensemble de la chrétienté, tout en échappant aux critiques d'hétérodoxie. Alors, Philoxène, en fait, ses homélies spirituelles sont exemptes de toute polémique théologique. C'est vraiment dans la ligne des grands écrits spirituels des moines égyptiens et syriens. Ces homélies sont une valeur inestimable pour tout chrétien. Elles ont été traduites, elles sont dans la collection Sources chrétiennes, on les trouve en français. Et sont écrits très, très très beaux. Alors, Philoxène a écrit également des commentaires sur les évangiles de Matthieu, de Luc et de Jean, et des textes liturgiques et prières qui lui sont attribués traditionnellement par l'Église syriaque orthodoxe occidentale. Et enfin, il a aussi contribué à une révision des textes de la Peshitta, la Bible en syriaque, pour améliorer sa traduction à partir du grec.
Alors, la compréhension du mystère du Christ traduit pour Philoxène par une formule synthétique, devenir sans changement.
Dieu le Verbe, s'incarne dans le sein de Marie la Vierge. Est-ce que celui qui est sans commencement, Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'il a un commencement dans le sein de la Vierge? Alors Philoxène va répondre oui. Dieu est devenu alors qu'il n'a pas changé. Et il écrit « Il est né charnellement de la Vierge. Ce n'est pas en tant qu'il est Dieu qu'il a eu un commencement, mais parce qu'il est devenu homme de la Vierge. Pour son être propre, il n'a pas commencé, même pas du Père. Mais en tant qu'il est devenu homme, nous ne craignons pas d'affirmer qu'il a eu un commencement de la Vierge. Celui qui forme, modèle, façonne, compose et crée les fœtus dans le sein des femmes en tant que Dieu, lui-même a été formé et façonné et il est devenu personnellement fœtus en tant qu'homme. » Alors, c'est une chose très importante parce que, du coup, les thèmes de mère et de naissance peuvent s'appliquer au devenir de Dieu. Et donc, on peut dire que Dieu est né. Et on peut dire que la Vierge est mère de Dieu.
La Théotokos.
La Théotokos. Donc, dans ce titre, la naissance, qui est une propriété de l'humanité, ça peut se rapporter aussi à la divinité. Et ça, c'est important parce que dans la doctrine de Cyrille d'Alexandrie et de ceux qui vont le suivre, il y a interpénétration des propriétés divines et humaines dans le Christ. Car c'est Dieu qui est né de la Vierge et pas un homme ordinaire. Il écrit, Philoxène, « La virginité ne pouvait rester intacte si celui qui sort du sein était un homme naturel. Mais si l'engendré est Dieu devenu homme, il fut engendré comme homme puisqu'il devint, mais comme Dieu, il garda vierge celle qu'il engendra puisqu'il ne changea pas. » Et donc, la titre de mère de Dieu est une confession dogmatique du Christ, davantage que la sainteté personnelle de Marie. Quand on dit mère de Dieu, on confesse le Christ, au-delà même de Marie. De même que Philoxène ne considère pas la virginité de Marie comme un privilège personnel de la mère de Dieu, même si elle est toute sainte, mais uniquement comme la conséquence de la conception et de la naissance virginale du Verbe. Il écrit « Nous proclamons Marie avec raison mère de Dieu, nom qui suscite la foi dans l'âme et attire l'homme à admirer et à être surpris par la richesse de l'amour de Dieu. »
Et le devenir sans changement dans l'Eucharistie, Jean?
Alors ce principe de devenir sans changement s'applique aussi à l'Eucharistie. L'Esprit Saint vient couvrir de son ombre le corps de Marie à la parole de l'archange. Il vient couvrir aussi et sanctifier les dons eucharistiques du pain et du vin. Quand donc va s'opérer la consécration eucharistique? Le débat qui a agité beaucoup l'Occident. Pour Philoxène, dans la lignée d'Ephrem le Syrien, c'est clairement lors de l'épiclèse, c'est-à-dire de l'invocation de l'Esprit Saint au moment de la liturgie. Il écrit « Le prêtre invoque sur l'autel et l'Esprit Saint descend et sanctifie les saints mystères et il en fait le corps et le sang de Dieu. De même que c'est le propre du Père d'avoir voulu que toute chose advienne, celui du Fils d'avoir fait toute chose, ainsi est le propre de l'Esprit de sanctifier toute chose et d'amener à la révélation tout ce qui est caché. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, sans que ni le Christ, ni le pain, ni le vin ne soient changés. Comme l'enfantement du Christ par l'Esprit ne change ni la nature éternelle du Verbe, ni la virginité de Marie. » Donc, les espèces, il écrit, les espèces profanes du pain et du vin sont posées sur le saint autel, mais lorsque l'Esprit descend sur elles, comme il est venu sur la Vierge, il en fait le corps et le sang de celui qui s'est fait homme. Et alors que dans la Vierge, l'Esprit avait donné chair au Verbe et montré le corps, ici il fait du pain et du vin le corps et le sang propre du Verbe pour qu'il puisse effectuer en nous tout ce que son corps personnel effectuait en lui.
De même qu'il y a des maladies physiques qui réclament souvent des soins urgents et prolongés, il y a aussi des maladies de l'âme dont les conséquences peuvent être désastreuses pour notre vie spirituelle.
Oui, Philoxène a été formé au contact des pères du désert et il s'avère être un authentique maître de l'art médical spirituel. Sa médecine spirituelle est profondément la foi en Jésus-Christ. L'évangile est le premier principe de la guérison de l'âme, c'est-à-dire du salut. Alors, la foi pour guérir en profondeur les maladies, que sont les passions désordonnées, se situe dans l'ordre spirituel. Il ne s'agit pas d'ignorer la nature, ni les moyens naturels. Mais celui qui reste dans l'ordre de la nature n'aura jamais que la victoire d'une convoitise sur une autre. Il écrit « Apprenons les causes des passions qui tourmentent continuellement notre vie par leurs excitations, afin que nous trouvions sans peine la guérison de notre âme, en prenant exemple pour le traitement de notre âme du traitement de la nature qui guérit les corps. Comme des médecins, regardons d'abord les causes qui font naître les excitations coupables contre notre vie, afin de parvenir à la guérison spirituelle. » Il faut savoir quel mouvement naît dans l'âme, du jeûne du corps, de la continence, de la prière à haute voix, de la prière en silence. Quelles pensées naissent en nous de l'aumône? Quelles passions s'éveillent contre nous quand notre façon de vivre est jugée meilleure que celle de notre frère? Quelles pensées arrivent en nous par la connaissance, celle qui nous est enseignée ou celle qui est transmise par les livres? Quelle passion naît en nous de l'obéissance envers les supérieurs? Et laquelle de l'obéissance envers tous nos frères? Quelles pensées sont en nous quand nous nous dressons contre l'obéissance? Par quelles pensées arracher la présomption de bien se connaître soi-même? Et enfin, Philoxène termine en disant, enfin je termine en tout cas son ainsi sur le souvenir de Dieu qui est essentiel à la vie spirituelle. Il écrit « Le souvenir de Dieu est la vie de l'âme, de même que tous les mouvements du corps vivant sont continuels et qu'il se meut tout entier dans toutes ses articulations et ses membres tant qu'il est en vie. De même aussi, le souvenir de Dieu se meut en tout temps dans l'âme qui a la connaissance de Dieu. Tant qu'elle se souvient de Dieu, elle ne pêche pas. S'il arrive que la lumière de sa science soit couverte pendant un peu de temps par la fumée du désir, le souvenir de Dieu se meut aussitôt en elle et sa crainte l'escorte jusqu'au repentir. Car la crainte de Dieu fait deux choses dans l'âme. Elle garde l'homme pour qu'il ne pêche pas ou, s'il pêche, elle le pousse à guérir son péché par le repentir. »
Voilà, aujourd'hui nous venons de vous parler de Philoxène de Mabouk, émission à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.